Je sais pas chez vous, mais chez nous, à Noël, avec tous ces chocolats, la motivation pour aller faire du sport est en dessous de zéro. Heureusement qu'à la télé, on a trouvé plein d'athlètes qui voulaient bien en faire pour nous.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez du meilleur du foot anglais et portugais en exclusivité avec la fibre starter et SFR Sport à 19,99€ par mois. Et pas seulement la première année. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition d'éligibilité valable jusqu'au 8 janvier 2018, réservée aux nouveaux clients. Plus 5€ par mois de location box, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49€.
RMC. I am very happy. I am sure with my staff that good work for this season.
Le Super Football Show.
We were 15 teams. Now we are 13. Alors my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Jonathan Macardy, Ali Benarbia et vous également au 32-16 sur le hashtag RMC Live. Bien entendu, je vous redonne les résultats de cette 18e journée de Ligue 1 si mon ordi accepte de fonctionner. Voilà qui est fait. Ce sont les impondérables du direct, bien entendu. Ça défile. Victoire hier 4-0 de Monaco à Saint-Etienne. Le PSG s'est imposé 4-1 face à Rennes. On y revient dans quelques instants. Victoire de Strasbourg de 2-1 face à Toulouse. On était avec Thierry Loret, l'entraîneur du Racing, il y a quelques instants également. Metz est allé s'imposer 3-1 à Montpellier. Deuxième victoire de la saison pour les Lorrains. 3 s'est imposé 1-0 face à Amiens. Match qui a fait très parler après que la Goal Line Technology a fait des siennes. Dijon s'est imposé 3-0 face à Lille. Olivier Dalloglio était avec nous dans l'after il y a quelques instants également. Et Caen Guingamp 0-0. Demain à 15h, Nantes-Angers, Nice-Bordeaux. Et à 21h, la grosse affiche, le match entre Lyon et Marseille. On va revenir, messieurs, sur la victoire de Metz. 3-1 à Montpellier. Metz qui a donc claqué 3 buts face à la meilleure, à l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Montpellier qui restait sur 7 matchs sans défaite, quand même, sur une belle série. Et c'est la deuxième victoire seulement cette saison pour Metz. La deuxième à l'extérieur. La victoire précédente remontait au 17 septembre à Angers. Une victoire 1-0.
Deuxième, ouais.
Et celle-là, franchement, fallait la miser quand même. Fallait
Montpellier. Personne ne l'aurait mise.
Ouais. Non, c'est ça. La meilleure défense contre la pire attaque.
Ouais. C'est 3 buts, hein. C'est pas 1-0 ou 1-2-1. Et je suis content pour Hans parce qu'il est en train de quand même peut-être trouver le ressort, pas pour revenir, hein, pour libérer les joueurs.
Est-ce que tu crois à la remontada du FC Metz?
Non.
Ils en ont fait une face au Barça déjà. C'était une football story dans la
Non, parce qu'ils partent de trop loin. Mais par contre, que les joueurs reprennent le plaisir à jouer, je pense que Fred, petit à petit, est en train de retrouver le ressort pour qu'ils retournent dans un match et qu'ils y croient, même s'ils perdent. Et je pense que cette victoire va leur faire du bien, mais il va falloir qu'ils pensent d'abord, même à domicile, à ne pas perdre, à faire des matchs nuls, tout en jouant, que beaucoup plus à vouloir vraiment gagner les matchs pour vite revenir, parce qu'ils n'y arriveront pas.
Jonathan.
Pareil, bah écoute, personne n'aurait misé sur cette victoire-là. J'ai l'impression que Montpellier s'est fait montpellieriser. C'est-à-dire qu'ils se sont fait prendre à leur propre jeu.
Ah non, ils ont pris un but.
Oui, comment?
Metz a pris un but.
Ça peut pas être Montpellier. Ouais, mais bah, par rapport au début de match, quand aussi on marque, après, c'est fini, tu vois, on se dit, c'est terminé, le match, c'est Montpellier qui va le gagner. Mais non, assez surpris, franchement, c'est ce qui fait que le football est beau, hein, c'est que, c'est les surprises comme ça. Et franchement, cette victoire défie toute logique. J'ai trouvé Montpellier très fébrile. Chose qui me semble être inconcevable, surtout depuis qu'ils sont passés avec cette défense à 3. Et puis par contre Metz, bah écoute, c'est une belle victoire pleine de panache, et quand je dis pleine de panache, c'est parce que à mon sens elle servira sûrement à pas grand-chose.
Alors on rappelle que Metz est dernier, hein, avec 8 points. L'avant-dernier c'est Angers qui compte un match en moins et qui compte 15 points quand même. Ouais, ça fait 7 points d'écart.
C'est pour ça que je te dis, je pense que ça servira pas à grand-chose quoi, mais c'est bien,
mais qui rejoue.
Voyons ce qu'en pense Maël et les supporters des Lorrains, les supporters du Graouli de Metz. Salut Maël.
Salut les gars, salut Nico Villas, salut Prince Ali,
salut
Jonathan, M. Macardy.
Ouais, ouais. Très très grosse carte ce soir, Robbie Lawler, rappel Dos Anjos, ça pas loupé.
Attends, bouge pas, ouais on s'en tape, ouais. Dis-moi,
un culte va, un culte.
Ouais, si tu veux, ouais. Je suis juge et arbitre, moi si tu veux savoir, selon le dictionnaire étymologiquement. Est-ce que tu crois à la remontada du FCMS, Maël?
Bah écoute, le match de soir nous laisse de bons espoirs quand même. Après, je veux dire, sur le plan tactique, on a vu une petite évolution avec la défense à 5. On a vu qu'on avait la possession jusqu'à la mi-temps. On a retrouvé une efficacité offensive. 4 tirs cadrés, 3 buts.
Défense à 5. Attends, Maël, défense à 5.
Ah oui, défense à 5.
3 et 2.
Ouais, non, ok. J'ai pas trouvé forcément qu'il jouait vraiment à 5. Dans l'animation, sur le papier, oui, mais dans l'animation.
Ouais, dans l'animation. C'était peut-être un peu différent avec des latéraux qui montaient beaucoup, mais
voilà, c'est ça, ouais.
Bon, après, Oui, voilà. Bah après, ce qui était intéressant, c'est de voir aussi surtout l'état d'esprit qui... Bon, les gars, ils ont pas lâché, quoi. Je veux dire, ils ont pris le premier but, et voilà, ils y sont retournés au Mastic, et ils ont réussi à aller là où ils voulaient aller, quoi. Donc là, on a 3 points qui sont récupérés sur Montpellier, un déplacement qui était pas donné. Moi, franchement, ça m'a surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. Montpellier, grosse défense et tout, donc voilà, on est plutôt contents. Après, bon, c'est sûr que faut espérer que ça soit pas un coup dans l'eau, comme ça a été le cas pour Angers. Et bon, moi surtout, ce que je retiens, c'est que les 3 prochains matchs vont être super importants, quoi.
Tu crois encore, Maël?
Dijon. Bah franchement, après, accrocher une passe de barragiste, on est à 10 points. Il nous reste quand même une demi-saison à jouer.
Ouais, c'est vrai.
Ça peut être jouable.
Faut faire. Alors, Jérôme Thomas, notre producteur, a calculé.
Qui sont. Ouais, dis-moi.
Non, j'allais dire, notre producteur Jérôme Thomas a calculé. Il faut que tu aies un rythme de 3e, 4e en moyenne de points pour espérer te maintenir. 4-5 même.
C'est ça qui va être compliqué. Par contre, ce que je remarque aussi, c'est qu'on a des équipes au-dessus de nous qui sont quand même dans des.
Qui peuvent perdre des points.
Dans des dynamiques qui sont plutôt négatives. On a Lille, on a Saint-Etienne. Angers, c'est pas non plus nickel.
Bordeaux aussi.
Donc, Bordeaux, je pense quand même qu'ils vont.
Il y a de la qualité.
Il y a de la qualité. Bah oui, franchement, sur le terrain, c'est déjà. Sur le papier, disons, c'est
déjà
un
petit peu au-dessus de nous. Malgré ça, vous partez de très loin. Déjà, il faudrait juste que cette équipe de Metz ait plaisir à rejouer, même si elle. Parce que là, ces derniers temps, c'était très dur.
C'est ça, surtout, là, que j'ai vu ce soir, là. J'ai vu une équipe qui a pas lâché. Qui avait envie de jouer les uns pour les autres, là. C'est ça qu'on avait envie de revoir, surtout. Parce qu'après, bon. Metz, c'est sûr qu'on avait quand même dans la tête quelque chose de mieux cette saison, étant donné qu'on avait quand même des équipes qu'on trouvait à notre portée. Bon, voilà. C'est surtout l'état d'esprit, parce que c'est vrai que ces derniers matchs, bon, là, on l'a un peu retrouvé sur Rennes. Bon, ça a été un petit peu aussi... Il y a eu un petit coup de pression des supporters aussi en tribune et tout. Mais j'ai l'impression que les joueurs ont pris conscience qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, qu'ils n'étaient pas des chèvres, quoi. Il faut quand même se le dire, il y a quand même un minimum de qualité sur le terrain. C'est quand même malheureux de les voir à cette place-là. Surtout qu'il y a quand même aussi une tonne de matchs où on aurait mérité mieux. Ne serait-ce qu'à Rennes. On a aussi, c'est l'exemple qui me tape le plus en tête, mais bon, le match de Paris où on tient vraiment pendant un bon bout de temps et ce carton rouge qui nous tue un peu. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de matchs où on aurait pu prendre des points, quoi, un peu plus.
Prochain match, ce sera Strasbourg. Merci Maël, en tout cas, de nous avoir
appelé. Maël.
Eh ben, je vous en prie, bonne chance à vous, je vais continuer à vous écouter.
Mais bien sûr,
mon gars, les gars.
Merci Maël,
ciao Maël.
Ciao. Bonne soirée Maël, à bientôt. Tiens, on va voir ce qu'on en pense de cette défaite du côté de Montpellier. Ludovic nous a appelé lui aussi au 32-16. Salut Ludovic.
Salut.
Alors celle-là, mon gars, fallait la trouver, la victoire de Metz à Montpellier.
Ouais, c'est clair. Mais tu vois, même les supporters messins sont surpris.
Tout le monde, autant, tout le monde.
Alors, cela dit, c'est vrai, quand on regarde la dynamique sur laquelle était Montpellier, il restait certes sur 8 matchs en défaite, mais dans ces 8 matchs, il n'y avait finalement que 2 victoires. Il y a beaucoup de matchs nuls à Montpellier cette saison quand même.
Oui, c'est pour ça. Et du coup, ça avance pas beaucoup. Et là, si je ne m'abuse, on a quoi, 23 points. Et hormis le fait qu'on aurait pu passer, passer à la 6e place devant Rennes, etc. et tout, on voit vraiment toutes les équipes qui sont derrière qui reviennent.
C'est vrai que Montpellier aurait pu être 6e en cas de victoire. Hein. Ouais.
Et voilà. Et puis là, oui, c'est clair, 3 buts face au dernier de la Ligue 1. Voilà. J'étais tout à fait d'accord là juste avant la pub quand vous disiez que Metz a joué en fait à la Montpellier Rennes. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Après, on a été attentiste, on s'est vraiment relâché, quoi. Mais quelle contre-performance à domicile quand j'y repense. Franchement, je suis fou là. Et puis je pense que vous avez raison depuis le début, puisqu'on en a parlé souvent dans l'after là avec vous depuis le début de la saison. En fait, on sent bête quand on voit Montpellier. Voilà, on n'est pas capable de jouer. C'est triste. On a du coup fait beaucoup de matchs nuls par rapport à ça. Tu l'as dit. À la mi-temps là de ce match-là contre Metz, on a l'impression que rien ne s'est passé. Il n'y a pas d'envie, c'est des maladresses, le jeu est très lent, on garde la balle 3, 4, 5, 6 secondes pour au final faire la passe à un Messin. Et voilà, je retrouve le Montpellier mais alors que j'aime pas du tout. On s'en fout, on s'est fait endormir. À partir du 1 partout, là, j'étais là, allez, c'est bon, ce match on le gagnera pas. Je pensais pas qu'on allait le perdre, mais franchement, je savais qu'on allait pas le gagner, parce qu'il n'y avait pas de rébellion, c'est pas ce petit supplément d'âme qui fait que la victoire on va aller la chercher même si c'est pas facile, etc. Et je sais pas, faut le bosser le
Le mental, ouais.
Et tu sais quoi, Ludovic, je veux pas te porter la poisse.
J'ai pas envie de parler des joueurs. Tu vois, là, ce soir, je suis énervé.
Je veux pas te porter la poisse, mais là, visiblement, vous avez relancé le FC Metz. Enfin, du moins, Metz a gagné ce soir. Le prochain match, c'est Bordeaux, qui est sur une dynamique toute pourrie aussi, à Bordeaux.
Ceci dit, je préfère être dans la position de Montpellier que de Metz ce soir, hein, mais bon.
Mais c'est Bordeaux le prochain match maintenant. Faut penser à demain.
Et puis dès mercredi soir, c'est clair.
Non, mais en plus, c'est pas ça. C'est que on avait l'impression que Montpellier était en train de faire une bonne remontada à Saint-Étienne, mais vous êtes qu'à 5 points de Lille.
Oui, c'est très serré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Exactement,
Attention. Allez,
Et du coup, on peut dire pareil après par rapport aux places qui sont devant, mais c'est toujours plus facile de reculer que d'avancer, quoi.
Oui.
C'est ça qui est, inquiétant. Et on a que 23 points, Lille est à quoi 18, c'est ça
Exactement.
Ouais, après, Bordeaux, c'est
20 points.
Ouais, mais je sais pas.
C'est 3 points d'écart avec Montpellier finalement.
Mais sur l'historique, je sais pas, des matchs qu'on a à Bordeaux, on a plus tendance à aller ramener quelque chose de là-bas. À l'époque, Chaban-Delmas, etc. Et puis même maintenant au Grand Stade, un petit nul, ça nous irait bien, histoire de passer les fêtes, aller pas au chaud, mais au moins quelque chose de assez confortable et puis de relativement conforme à notre première partie de saison.
Merci Ludovic de nous avoir
appelé. Ludovic,
à bientôt. Ludovic.
Vous, les gars.
Bonne soirée Ludovic. Ciao, ciao. Juste pour être très précis. Salut Ludovic. Montpellier restait sur 7 matchs sans défaite, 2 victoires sur ces 7 matchs
des matchs
et 5 nuls, oui, absolument. Mais si on va évoquer, revenir surtout sur la victoire du Paris Saint-Germain, victoire 4-1 face au Stade Rennais, doublé de Neymar, Mbappé a marqué, Cavani aussi, Moubele avait marqué pour le Stade Rennais. Alors il y a eu 2 exclus dans ce match. Alors André d'abord du côté de Rennes à la 64e et Kimpembe qui a pris un rouge également à la 88e. Kasri qui a raté un pénalty en toute fin de match également. Voilà, ça a été un match qui a été très bizarre, notamment la seconde période.
Déjà le problème c'est que André a un carton jaune. Il n'était pas si méchant que ça. Mais sur le deuxième carton jaune, il le touche pas.
Il y a là, c'est imaginaire. C'est imaginaire.
Non mais ça fait rien. Donc l'arbitre. Même si c'est imaginaire, je veux dire, l'arbitre regarde un petit peu.
Ah, psychologiquement.
Parce qu'il a déjà un jaune. Il aurait pu aller et l'avertir, lui dire attention Monsieur André, vous avez un jaune, faites attention. Et là non. C'est clair, net, il met le deuxième jaune pour avoir le rouge. Et automatiquement, t'es à 2-0. Et ça transforme le match. Et c'est vraiment, je le dis encore, c'est vraiment dommage. On parle encore de l'arbitrage, de toute façon, ça fait partie du match. Mais par des moments de la psychologie, ça fait pas de mal. C'est comme si t'as l'adversaire qui perd 4-0, tu vois.
Ouais.
Et sur un truc comme ça, hop, tu vas en courant et tu mets le carton rouge, juste pour encore plus envenimer le match, alors que c'est pas le moment. C'est un petit peu, pour parler juste de ce moment-là, ça aurait pu continuer à être un match intéressant. Et puis après, c'est parti un petit peu en biberine.
Et c'était bizarre, Écoute, Paris a commencé le match très très fort.
Ouais. On va dire la double doublette.
On sentait,
Mbappé.
Neymar Mbappé, ils ont mis le feu direct. J'ai bien aimé Lo Celso.
Bouillant.
J'ai bien aimé Giovanni Lo Celso positionné devant la défense aussi comme ça. C'est la deuxième fois qu'on voit ce poste-là. Je trouve que c'est pas mal. Alors défensivement, ça manquera peut-être de solidité face à des équipes un peu plus costauds. Mais là, quand tu le vois techniquement, il régale. Il a fait bonne passe.
Il a pas peur de demander le ballon.
Non. Et il est vraiment sa justesse technique vu d'un peu plus reculé. Je trouve ça très bien. Après voilà, Paris a été sérieux. J'ai trouvé le plan de jeu rennais très frileux, de venir comme ça en 4-5-1, 4-1-4-1, enfin bref, avec un milieu hyper renforcé et un seul attaquant. Ils ont un peu tendu le bâton pour se faire battre. On sait que Paris, pour les gêner, faut les presser, faut être agressif. Et là, j'ai trouvé peut-être même un petit peu trop passif. Et ce que j'ai pas aimé côté parisien, parce que bon, là, on vient de dire qu'ils ont fait un match sérieux, que les trois de devant, ça va, ouais, Lo Celso, ça va. C'est derrière. Je trouve que derrière, j'ai pas de match en mémoire depuis le début de la saison où j'ai trouvé que Paris était serein derrière.
Ouais. Mais, et vous savez, alors, moi, je sais que Daniel n'aime pas qu'on sorte cette stat parce que c'est vrai que les stats, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'on a souvent constaté que Paris encaissait souvent des buts un peu bêtes parfois dans les moments forts. Paris, c'est un clean sheet sur les 9 derniers matchs. Voilà. Ouais. Je ressors à chaque fois la stat, mais c'est vrai qu'elle se confirme
de semaine en semaine.
Les deux matchs en match.
Hyper parlant, pas que les buts. Il y a des occasions.
Il y a quand même. Il y a le pélo raté de Kasri notamment.
Le sentiment et l'impression générale qu'on a lorsqu'on regarde ces équipes du PSG jouer, c'est qu'on sent que c'est une équipe qui peut prendre des buts assez facilement.
Bah parce qu'elle est trop facile peut-être aussi, non ?
Non, parce que je pense que leurs défenseurs sont pas à niveau, mais ça c'est un autre débat.
Être facile avec le ballon est une chose, montrer ta supériorité défensive et tactique
et technique,
c'est autre chose. Et là, je ressens encore chez les latéraux que des fois, eux-mêmes, ils se disent on parle pas autant de nous, on veut briller comme les Neymar et Mbappé, donc ils gardent tout leur potentiel pour les appels. Exactement. Ou alors le jeu offensif. Alors qu'en défensivement, ils font juste du plasma, alors que c'est les attaquants qui le font.
Les centraux sont un ton en dessous par rapport à l'année dernière aussi.
Il n'y a pas cette agressivité, cette machine. Voilà. Et le haut niveau, il faut être méchant. On voit Ramos, on voit Bonucci. Si tu n'es pas méchant défensivement et tu ne fais pas peur à l'adversaire, ben tu peux passer au travers. Et ce qui arrive souvent,
méchant,
quand même au PSG.
Méchant, même mieux, je dirais, il faut avoir du vice. Parce que Kimpembe, il est méchant, mais il n'a pas le vice. C'est-à-dire qu'il est méchant, mais pas, il est non, pas, il a pas encore assez de métier, méchant, tu vois, fait. Pour pas
Kimpembe,
se faire gauler.
Il est force de la nature, c'est un rock, tu vois.
Il manque de métier.
Comme il veut trop montrer qu'il est supérieur des autres, voilà. Parce qu'il l'est quand même physiquement, ben son arrogance se retourne contre lui.
Pour en revenir aux attaquants, on est d'accord, Neymar a fait un super match.
On
va écouter justement l'analyse, la réaction d'Unai Emery à l'issue de la rencontre.
Elle est incroyable. Tous les supporters qui aujourd'hui sont ici,
ils regardent
les matchs dans la télévision. Ils peuvent être supporters de PSG, mais s'ils aiment le football, ils sont contents de voir un joueur comme Neymar dans le terrain aujourd'hui. Quand il est bien, quand il est content, quand il est dans le terrain, il se sent bien avec les coéquipiers. Je crois qu'aujourd'hui, il l'a senti très bien dans le terrain. Et aussi, il a cherché aussi beaucoup d'actions très cadre offensives avec la percussion, avec la combinaison avec Draxler, avec Juri à la côté gauche. Et je crois qu'il a aujourd'hui pouvoir faire toutes les actions avec la capacité qu'il a.
Et comme Unai Emery l'a dit, et on ne le contredira pas, c'est important de se sentir bien avec ses coéquipières.
Voilà, merci Jonathan. Le Paris Saint-Germain a une attaque de feu. Neymar aujourd'hui en a été le symbole, et en tout cas c'est l'avis également de Johan, du supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Johan.
Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Salut Johan.
Bon, ça a déroulé offensivement le PSG aujourd'hui.
Ouais, c'est clair, là c'est bien. Ils ont réussi à faire marquer tout le monde. On a senti en plus qu'en début de deuxième mi-temps, il y avait une volonté de faire marquer Cavani. Donc ouais. C'est bien parce que ça, moi je trouve des fois que ça manque d'entente. Et là, comme ça déroulait et tout, Neymar, il a beaucoup joué pour Cavani pendant 25 minutes, quoi, jusqu'à la 70e.
C'est vrai, c'est à noter ça.
Et ça a permis de le faire marquer. Donc ça montre un peu qu'ils essayent quand même, voilà, de faire une bonne entente, c'est bien. Et je suis content pour Cavani parce qu'il sacrifie énormément pour l'équipe. Et il arrive quand même à être ultra performant malgré tout. Donc c'est vraiment un joueur de grande classe. Donc on est toujours content quand il met son petit but. Et là, il nous a mis un but magnifique en plus.
Mais par contre, Johan, il y a quand même un souci dans le sens où, en ce moment, Cavani se cherche, ne me fait pas des matchs complets, et comparé au début de saison où il suivait, il se créait beaucoup d'occasions, il créait énormément de brèches.
Enfin, et 18 buts cette saison quand même, en Ligue.
Non.
Il fait 3 matchs en dessous, il est fatigué.
C'est ce que je veux dire, Johan. Jonathan, ces 3 derniers matchs, je le regarde un petit peu. D'habitude, même s'il ne suit pas la façon de jouer de Neymar et Mbappé, c'est
un peu
éboussé, arriver.
Tu veux dire?
Non, on dirait qu'il est un petit peu perdu dans ses appels de balles, alors qu'habituellement, même quand il touchait pas le ball, il était là.
Il est moins tranchant et
en ce moment, il est moins là au bon endroit au bon moment.
Parce qu'il est fatigué.
Voilà. Alors est-ce que c'est pas vraiment
peut-être parce que les autres y sont aussi, non?
Ils apportent. On dirait que.
Je m'inquiète pas.
Je sais pas. On dirait que il cherche encore où se trouver, alors qu'en début de saison, non, il le trouvait. Et là, par contre, je vais parler d'Mbappé. Là, la différence, c'est que quand il est concentré et qu'il est agressif, comme il l'est très bien, il a les qualités, on le sait très bien, pour tout réussir. Et il se doit, puisque lui veut être un très grand, qu'à chaque match, qu'il se concentre pour tout réussir. Et là, c'est pas le même joueur. Et dès qu'il évite les contacts et qu'il se laisse aller, automatiquement, il perd trop de ballons. Et là, il en devient après un joueur, tu vois, qui n'est pas aussi fort qu'il le montre. Et là, tu le montres. Dès qu'il est concentré, automatiquement, on n'a plus le même joueur.
Johan, juste une question également. Lo Celso a joué en
milieu
poste de 6, on va dire, même si c'est pas vraiment son poste à la base. On a revu Thiago Motta aujourd'hui aussi pour la première fois depuis le mois d'octobre. T'aimes bien, toi, Lo Celso à ce poste-là, ou tu trouves, on faisait ce débat hier dans l'after, que Motta manque au Paris Saint-Germain aujourd'hui?
Moi, je dirais pas que Motta il manque, parce que moi, je pense que Motta, il est plus vraiment physiquement au niveau par rapport à l'exigence qu'on peut avoir pour le PSG. Et après, je dirais que pour des matchs comme en L1 comme ça, mettre un joueur, un mec qui a du ballon et qui joue un peu, qui est pas un pur récupérateur en numéro 6, pour ceux qui regardent le match, c'est bien. Voilà, donc moi je trouve qu'il a raison, Unai Emery. Après, pour les gros matchs face à des équipes qui vont avoir un peu plus de possession et qui risquent de nous imposer le rythme du match, Il va nous manquer,
il Sané,
c'est sûr. Et puis Van Dijk, c'est pas un spécialiste non plus, donc il va nous manquer. C'est un des postes sur lequel on est un peu faible quand même. Donc faudra espérer que ça passe, quoi.
Merci Johan de nous avoir
appelé. Salut Johan.
Bonne soirée Johan. Ciao. Bonne soirée à toi, messieurs dames. On va partir à l'étranger. Tiens, c'est une petite pause là, peut-être maintenant, non? Ouais, tu entends la musique, ça veut dire qu'on va faire une petite pause. Dans quelques instants, on sera en Espagne, en Italie, et en Angleterre également. Il y avait une très belle affiche aujourd'hui entre Manchester City et Tottenham. Il y a le trio de tête qui a changé en Italie également. Et puis en Espagne, le Real Madrid a remporté un titre ce soir. Il est champion du monde des clubs. Le Real Madrid qui s'est imposé exactement en finale face au Grêmio, le club brésilien. On sera avec Fred Hermel, Simone Rovera et Philippe Auclair juste après ça.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy, avec vous sur le hashtag RMC Live et également au 32-16. On va filer à l'étranger, retrouver nos drôles de dames, certaines d'entre elles, du moins avec Fred Hermel qui est avec nous. Salut Fredo.
Champion du monde.
Et alors, qu'est-ce qu'on leur a mis? Ça va, je suis pas champion du tout l'accent espagnol d'ailleurs.
Ils ont remis 1-0.
Qu'est-ce qu'on leur a mis, Cristiano Ronaldo, l'homme qui devient le meilleur buteur de l'histoire du championnat du monde des clubs. Oh là là, quel joueur. Il mériterait un ballon d'or. Putain, il en a déjà 5, j'avais oublié. Bon, ça va,
Fredo ? Surtout 5 titres dans une année civile. Ouais. Jamais en 115 ans d'histoire. Le Real n'avait réussi ça. Et c'est Zizou qui l'a fait.
Juste avant que tu déroules, toi aussi, Fredo, accueillons également Simone Rovera, puisqu'on va aller en Italie dans quelques instants également. Ciao, Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir. Ciao. Pas des champions du monde ici. Bon.
Non, et
ciao,
pas de Coupe du Monde d'ailleurs. Non plus.
Pas de Coupe du Monde.
Le monde ne nous intéresse pas. Nous, on pense à l'Europe. Bon, les mondes.
Non, et pas à l'Italie surtout.
Ouais, tu penses surtout à ce qui se passe là-bas. On va revenir. Il s'est passé beaucoup de choses en Italie également. Revenons d'abord sur cette finale du championnat du monde des clubs, Fredo. Alors, victoire 1-0 en finale face au Grêmio. Un seul but, donc un coup franc direct de Cristiano Ronaldo. C'était bien comme match ou pas, Fredo?
Ouais, c'était bien. C'est un match maîtrisé d'un bout à l'autre par le Real, qui n'a pas concédé une seule occasion où l'homme de service, le buteur de service plutôt, Cristiano Ronaldo, a mis son petit but. Modric, brillantissime dans le jeu. Fabuleux. Ouais, fabuleux. Varane, excellent en défense. Non, mais c'était... Vous savez, le Real Madrid, c'est historique. Dès qu'il y a une petite coupe dans un coin, ils se remettent en forme juste au moment où il faut jouer la coupe. Putain, mais c'est un truc de malade, quoi. Ils sont toujours. Zidane, le Real Madrid n'a quasiment jamais perdu ses finales. Et Zidane a gagné toutes les finales qu'il a disputées comme entraîneur avec le Real Madrid. Non, c'est vraiment le bon Real qui revient au bon moment. C'est-à-dire un nouveau titre et puis la semaine prochaine le Classico. Benzema a été bon dans le jeu. Cristiano donc a mis son but. Bale qui est rentré en deuxième période, il a fait de belles choses aussi. On sent qu'il va mieux. Ben non, mais c'est con. Hein. Ils vont être en bonne forme pour le 14 février et puis le 6 mars. C'est con quand même. C'est vraiment dommage.
Je comprends ce que tu veux dire.
Mais c'est vrai, mais c'est l'équipe.
Toi, déjà, t'es en train de te faire des potes sur Twitter. Là, tu crois qu'on les voit pas défiler tes tweets là contre les Parisiens?
Non, c'est pas contre les Parisiens. Mais moi, ce que j'explique, c'est qu'il faut surtout pas considérer que ce qu'on a vu du Real Madrid au mois de septembre, octobre, novembre est significatif. Le Real est une équipe qui se met en route quand les matchs importants sont là. Mmh. C'est-à-dire le Classico la semaine prochaine, c'est-à-dire le titre de ce soir. Et puis,
c'est ce qui est surtout marquant, c'est qu'on a l'impression que physiquement, ils sont beaucoup mieux.
Bah oui. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que
déjà Bale retour.
C'est Pintus, on l'a vu à l'OM. Les mecs, c'était des horloges, quoi.
Non, mais Bale revient déjà, c'est une bonne nouvelle aussi.
Non, et c'est pas ça. Est-ce que Varane, il est blessé? Il a rejoué? Je comprends plus, Fred.
Non, mais Varane, il est jamais gravement blessé. Il a tout le temps des petites saloperies qui l'empêchent d'enchaîner les matchs. Mm-hmm. Donc c'est pas un joueur qui peut jouer tous les trois jours. C'est gênant. Et d'ailleurs, Zizou disait l'autre jour, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec lui. C'est-à-dire, quand il y a deux matchs rapprochés, est-ce qu'on le met totalement au repos pendant les deux matchs? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait pas d'écrassage? Est-ce qu'il fait pas d'entraînement? Ou est-ce qu'on fait des choses un peu différentes? C'est-à-dire qu'ils en sont là, quoi. C'est-à-dire que Varane, c'est quelqu'un qui ne peut pas enchaîner. Il a tout le temps une petite contracture à l'adducteur, une petite contracture à la cuisse. C'est jamais bien grave, mais il manque deux matchs. C'est-à-dire qu'il fait pas 10 matchs de suite, c'est pas possible.
Tiens, tu sais quoi, Fredo? On va accueillir Guillaume. Guillaume qui est un auditeur de l'After qui nous écoute depuis Abu Dhabi. Et oui, Guillaume qui
Mais c'est Guillaume qui m'a écrit, je t'ai redouté.
Exactement. Et que Jérôme Thomas a calé et qui est avec nous ce soir dans l'After. Il a assisté à cette finale entre le Real et Grêmio. Salut Guillaume.
Bonsoir à tous.
Salut Guillaume.
Merci d'être avec nous, Guillaume. Alors, elle était comment cette finale, l'ambiance, tout ça, Abu Dhabi, c'était comment?
C'est pas mal. Là, en fait, on est sur le chemin du retour. En fait, j'habite à Dubaï, j'habite pas à Dubaï, on était pas
d'accord.
Le match.
C'est à côté.
À peu près une heure et demie.
Voilà.
Voilà. Et donc, c'était bien, l'ambiance était bonne. Il y avait.
Il paraît qu'il y a eu de l'embrouille dans les tribunes avant le match.
Non. Nous, on y était. En fait, on a vu. On y était pour voir aussi le match pour la troisième place entre Pacheca et Adjazira.
Ouais, d'ailleurs, victoire de Pachuca 4-1, ouais, le Mexicain.
Exactement. Mmh. Mais non, il n'y avait pas d'embrouille, non.
De toute façon, là-bas, ils sont tous pro Real. Hein.
Ouais, exactement. Il y a beaucoup de.
Barça,
les clubs.
Non, surtout Real. Barça.
Mmh. Sont très regardés, donc il y a beaucoup de pro-réa. Mais il y avait beaucoup de supporters de Grêmio aussi, énormément à faire.
Ouais, parce que dans les Émirats et même à Doha, il y a beaucoup de Brésiliens.
Ouais, ils ont la cote.
Il y a beaucoup de Brésiliens. Ouais.
Et dis-moi, tu fais quoi à Dubaï, Guillaume ?
Ensuite, je travaille pour une boîte française dans la logistique.
D'accord. Donc, ok. Ouais, ça va, t'aimes bien la vie là-bas, c'est sympa ? Niveau foot, c'est comment d'ailleurs ?
À niveau, voilà, le championnat local, et on va dire, c'est niveau national. Ouais. Donc on part. C'est correct. Sinon après c'est beaucoup donc il y a beaucoup d'anglais aussi, donc le championnat anglais est beaucoup regardé, et forcément Real, Barça ont les équipes qui sont très regardées.
Et toi, t'es supporter de qui, Guillaume?
Supporter de Marseille.
D'accord. Et t'es quand même allé. Ouais. T'as dit quoi, Jonathan?
C'est bien.
C'est un choix, hein, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas. Non mais c'est vrai. Non mais en même temps, on veut mieux qu'il aille voir L'Oréal pour aller voir jouer Marseille une finale du championnat du monde des clubs, non, Jonathan?
En même temps,
qui dit que ça va parler bientôt? Qui dit que ça va parler bientôt?
Non, déconne.
Oh. Et Guillaume, qu'est-ce que t'as pensé du Real?
Non, je pense pas que surtout que Marseille arrivera championnat du monde des clubs.
Garde la foi, Guillaume, s'il te plaît.
Je garde la foi, mais bon, faut être réaliste aussi.
Tovin, Ballon d'Or.
Tiens, Jérôme, Thomas, une question Guillaume. Très importante pour toi, Guillaume. Tu préfères Tovin ou Cristiano Ronaldo?
Le cœur, c'est dur, c'est le cœur. Non. Si c'est le cœur qui parle, Guillaume.
Le cœur qui parle, on va dire à Tovin, quand même. Ouais. Hein.
Ah ben moi, je préfère déjà le pied gauche de Ronaldo, pour te dire.
Mais bon, Ronaldo, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal.
Eh ben merci pour cette petite carte postale. Non, Guillaume.
Une petite chose, si tu me permets, parce
vas-y,
que
vas-y.
Moi, je l'ai vu à la télé le match.
Ouais.
Dans le stade, est-ce que le Real était aussi impressionnant de maîtrise qu'à la télé?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais assez déçu déjà de Grêmio, parce que le match était vraiment à sens unique. Le Real a totalement dominé le match. Il aurait pu finir à 4-5-0 facile. Hein. C'était vraiment, il y avait pas de
zéro occasion pour.
Franchement, par rapport à ce qu'on avait vu de Grêmio en Libertadores, notamment des joueurs, notamment Luan, qui avaient été étincelants. Enfin, ils les ont étouffés pendant tout le match. Ils n'en ont pas touché une. Le Real a été très sérieux et surtout, moi, je les ai trouvés impressionnants physiquement. Ils avaient une densité physique par rapport aux Brésiliens qui était vraiment stupéfiante.
Modric qui a eu un début de saison assez compliqué là, franchement.
Il a été énorme.
Et vous avez vu ce qu'a fait énormément de buzz au Brésil autour de ce match ou pas? Vous savez que cette équipe du Grêmio est entraînée par Renato Gaúcho, qui est un ancien joueur, et qui a déclaré qu'il était meilleur joueur que Cristiano Ronaldo quand lui jouait. Alors ça a fait beaucoup de buzz au Brésil. Scolari, qui est un peu le papa dans le boulot comme entraîneur de Cristiano Ronaldo, quand le papa de Cristiano est décédé, c'est Scolari qui lui a annoncé, il était en équipe nationale, etc. Scolari a dit, moi j'ai vu jouer Renato Gaúcho, et c'est vrai qu'en termes de foot pur, Renato Gaúcho est peut-être meilleur joueur que Cristiano, mais Cristiano est plus buteur. Ça a fait un buzz phénoménal au Brésil, cette histoire. Et donc on avait Renato Gaúcho, entraîneur de Grêmio, face à Cristiano Ronaldo. Voilà, c'était pour la petite histoire. Mmh. Tout le monde s'en fout.
Simplement par rapport à.
Vas-y, Nico, Guillaume.
Est-ce que tu fais une petite dédicace?
Bah oui.
Je suis dans la voiture avec Serge et Kézar, donc une dédicace pour eux. Hein.
Bah s'ils sont avec toi, c'est pas la peine. Hein. Ils savent, du coup.
Non, mais quand même.
Non, mais ils sont contents.
Ok, bah c'est comment ils s'appellent?
Kézar et Serge.
Eh, Kézar, Serge, j'oublie pas. T'es un gagnant. Voilà, bonne soirée, les mecs. Bon retour.
Salut, Kézar.
Fais gaffe à vous sur la route.
Moi, je conduis, donc.
Ah d'accord.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Oui, il conduit, il peut pas.
Ah ok, les gars, faites gaffe sur la route. Ciao les gars, bonne soirée. Enfin bonne soirée, je sais pas quelle heure il est chez vous, mais bonne soirée.
3h.
Ciao les gars.
Par rapport à ce que t'as dit, il a fait une belle carrière, Renato Gaúcho. C'est un des rares entraîneurs à avoir gagné et la Libertadores en étant et joueur et en étant entraîneur avec le même club, le Grêmio. Mais de là à dire qu'il y a une comparaison avec Ronaldo quand même, quoi.
Lui, il dit que footballistiquement, en termes de talent pur, il était meilleur que Chris. Bah il a le droit de dire ce qu'il veut, le mec, après.
Il faut être lucide aussi.
Bah c'était un autre temps.
Il a fait une demi-saison en Europe, ça a pas marché. Les revenus,
c'est
un peu pas comparé.
Footballistiquement, ça ne veut rien dire.
En termes de talent, voilà ce que je veux dire.
vote.
Non, non, parce que tu vois Ronaldo, ben, il est resté avec Messi. Je vois pas qui d'autre, ces dernières années, leur arrive.
Fredo, un mot sur Valence quand même qui a perdu ce soir.
Un petit mot simplement parce qu'il faut expliquer parce qu'on a évoqué Pintus. Jonathan parlait de que le Real était réglé comme une horloge. En fait, physiquement, ils étaient au top à la fin de la pré-saison parce qu'ils avaient deux titres à jouer, la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Europe, qu'ils ont remporté tous les deux. Là, ils ont été reprogrammés pour décembre pour ce nouveau titre et après ils vont être reprogrammés puisqu'ils vont faire un travail spécifique au mois de janvier. Pour la Ligue des Champions.
Quand il était à l'OM, c'était stupéfiant de voir à quel point ils avaient des pics de trois, au moins quatre pics de forme dans la saison, alors qu'habituellement, tu vois, c'est plutôt un ou deux. Là, l'équipe, elle était, enfin,
quand tu parles de prépa physique, faut pas utiliser le mot stupéfiant. Après, ça finit mal. Demande à Simone comment ça s'est fini en Italie.
Ça fait mal.
Bon, bref. Non, mais, par rapport à ça, de voir le Real, moi, je suis assez confiant pour eux. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des petites périodes un peu creuses en début de saison, mais c'est vrai qu'ils jouaient sur plusieurs tableaux, ils avaient plusieurs grosses échéances. Et là, je les sens revenir en boulet de canon, quoi.
On sait qu'ils seront là, mais la question, Fred, pour moi, concernant les coups francs Ronaldo, combien il la marque exactement par ces gens?
Tu sais qu'il avait une stat toute pourrie.
Pas beaucoup.
Il les vampirise un peu, Fred, non?
Quand le coup franc il est sur la droite, donc pour un gaucher, il le laisse vraiment Gareth Bale. Il faut vraiment que ce soit bien décalé.
Parce que en pourcentage, c'est pas bon du tout.
Ouais, mais sauf que regarde, coup franc par exemple en Ligue des Champions l'an dernier, quand il y a deux ans, quand il fallait faire la remontada contre Wolfsburg. Regarde, là coup franc, c'est un titre. Il en met des importants quand même. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, mais il les marque en général, c'est dans les matchs importants.
Un mot sur Valence, Fredo, qui a perdu tout à l'heure face à Eibar de Buzyn. Alors ça, c'est un peu étonnant parce qu'ils avaient un coup à faire les Valenciens. Dans le même temps, il y a quelques instants d'ailleurs, l'Atlético s'est imposé 1-0 face à Alavés, c'est Torres qui a marqué. Hein, et du coup, l'Atlético passe devant.
Bah oui, l'autre jour, moi, je les avais trouvés très bons face à Chelsea, l'Atlético. Très bon. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on voyait depuis deux mois, on avait vraiment l'impression que quelque chose est en train de refonctionner. C'est-à-dire que, comme Simeone avait un peu lâché la bride aux joueurs talentueux, c'était pas si mal ce qu'ils ont fait à Chelsea, même si ça n'avait pas servi pour se qualifier. Et c'est vrai que l'Atlético fait son petit bonhomme de chemin et que là, après la défaite, pas forcément surprenante de Valence à Eibar, parce que jouer à Eibar, c'est compliqué. C'est un tout petit stade, c'est le public, c'est en centre-ville, le public est quasiment sur la pelouse. Non, et puis c'est une bonne petite équipe. Franchement, c'est pas évident. En plus, il y avait pas Zaza qui était suspendu, Guedes est blessé, donc il y avait pas tout le monde et finalement c'est assez logique ce résultat parce que Eibar est une équipe compliquée. Mais de toute façon, Liga, tout le monde bat tout le monde, donc voilà, il y en a cinq qui sont là. Séville, le Real, l'Atlético, Valence et le Barça. On parle d'un big five en Espagne. Parce que ces cinq-là vont se battre pour les quatre places qui donnent droit à la Ligue des Champions.
Alors, tu dis tout le monde peut battre tout le monde. Le Barça compte un match en moins et trois points d'avance pour le moment sur l'Atlético. Le Barça joue demain face au Deport. Sur le papier, ça a l'air quand même super déséquilibré.
Ouais, bien sûr. Non, parce que le Deport est en... Enfin, ça va pas, quoi. Le Deport est une équipe...
Ils sont 17e.
On est loin du super Deport de Mauro Silva, Bebeto et tout ça.
Là, c'est Deport, mais en deux mots.
C'est Deport qui essaye de rester en première division et qui souffre tous les ans. Donc, non, le Barça devrait pas avoir de problème demain. Ce serait à la couronne, je ne dirais pas, mais là, au Camp Nou, il n'y aura pas de problème.
Merci mon Fredo.
Merci.
Tu veux rajouter un truc ou pas, Fredo?
Comment?
T'as un truc à rajouter? Ah si, ça, je voulais t'interroger, tiens, là-dessus. Alors, bon, c'est une petite déclat de Zizou qui fait pas mal de buzz également. Le meilleur buteur de Première Ligue, on sera tout à l'heure avec Philippe Auclair, c'est Mohamed Salah du côté de Liverpool. Il y a un éventuel intérêt du Real Madrid. Zidane a répondu à ça en disant qu'il appréciait beaucoup Salah. Franchement, c'est crédible ou pas, Mohamed Salah au Real?
Non, parce que Zidane veut pas de. Enfin, il pense qu'à. Enfin, si Mohamed Salah va venir au Real pour être sur le banc,
il dégage quelqu'un.
Oui. Bah oui, mais Benzema est intouchable, il est incontournable, donc. Mais la BBC est intouchable. Quand je parle de Benzema, c'est la BBC est intouchable. Et là, il revient. Donc, puis il faut pas oublier que.
Il y a Isco aussi.
Il y a Isco, il y a Asensio.
Non,
il y a
du monde encore. Dis-moi, Fred, juste une question, parce que je t'ai. Griezmann, avec le Mercato et Costa qui joue, est-ce qu'il y a un départ, Griezmann?
Ah, pas au mois de janvier.
C'est sûr.
Non. Ah ouais, c'est sûr. Non, zéro.
Et Gamero. Ça, c'est sûr.
Ah, Gamero, c'est autre chose, compliqué. Hein. Ouais, c'est le compliqué, là. Mais Griezmann partira, comme je vous l'ai dit.
Manchester United?
Il va partir.
Bah, c'est moi, ce qu'il se dit depuis pas mal de temps.
Ouais, moi, je pense qu'il va venir au Real. Donc, ça,
ah
je...
ouais
je... Mais oui, mais je l'ai déjà dit.
Bah, la BBC est intouchable. Alors, comment c'est là? On fait comment?
Oui, mais dans un an, qu'est-ce qui va se passer?
Bah, c'est dans 6 mois.
Oui, non, mais je veux dire, l'année prochaine, tu sais, moi, je suis pas sûr que
ça va rester. Ça peut être dans 6 mois aussi, Fredo, dans ce cas-là.
Donc, attends, tu veux dire que c'est pas un Hein non, mais là, moi, je parlais de janvier.
Non, pas janvier, l'été prochain.
On s'en fout un peu.
Ouais, l'été prochain, Griezmann va partir de l'Atlético. Son rêve, c'est de jouer au Real. Et je peux vous dire de source sûre qu'il plaît beaucoup au Real Madrid. Et puis Cristiano, on en reparlera un soir. Tiens, je vais peut-être faire mon avis dans l'after lundi là-dessus.
Ah, vas-y, sur quoi?
Parce que Cristiano, il risque de partir en fin de saison.
Mais il va aller où?
Bah, parce qu'il en a marre d'être le meilleur joueur du monde et d'être le troisième mieux payé. Donc, il fait la gueule. Eh oui, bah, faut pas voir.
Il retourne à Manchester United?
Ben non, enfin en tout cas,
ah, Saint-Germain.
Il a demandé au président de laisser partir. Le président dit un contrat. Et là, ce soir, il a de nouveau été interrogé sur son avenir. Il dit j'espère rester au Real, finir ma carrière au Real, si c'est possible. C'est pas moi qui dirige le club.
Sache que le Stade Rennais c'est mort, ils vont garder.
C'est du déjà vu un peu cet avis, Fred, non?
Ouais, sauf que là, il est bien en colère.
Okay. Ah ouais, à ce point-là.
Ouais, parce que ben Neymar est à 37 millions, Messi va passer à 40 millions et lui il est à 20 millions.
Oh, le PSG, ils vont tenter un truc là, je sens.
En tout cas, Saint-Étienne, ils ont mis 9 sur Diony et ça marche pas.
Bon, Fredo, merci en tout cas, Fredo.
Adios, chicos.
Merci, ciao, bonne soirée, Fredo. Merci. Ciao, ciao. Et dans quelques instants, vous avez reconnu son ciao, ciao, c'est Simone Rovera. On va filer en Italie. Il y a beaucoup de choses qui sont passées ce soir en Italie, bon. Hein, Simone.
Énormément de choses.
Vas-y, fais un petit teasing,
Super football. Inter n'est plus à la tête du classement.
Oui, c'est ça.
C'est parfait. Lui. Allez, on revient dans quelques instants. Ça donne envie, ça, punaise. Oh la vache. Allez, à tout de suite pour la suite de l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCarty, avec Simone Rovera également qui était avec nous parce qu'on va parler de foot italien. Et Philippe Auclair aussi nous a rejoint. Salut Philippe.
Salut Nicolas, salut à tous et à toutes.
Salut
Philippe. Salut.
Tout va bien Philippe?
Oui, depuis Manchester où je peux vous garantir qu'il fait très très froid, mais on a eu chaud au cœur avec un match absolument magnifique entre Manchester City et Tottenham, et ça va être difficile de trouver les superlatifs parce qu'on en utilise beaucoup depuis le début de cette saison pour les Citizens, mais bon, encore une fois ils ont régalé. Il s'est passé beaucoup d'autres choses, mais visible. Enfin bon, c'est évidemment là surtout que on avait les yeux tournés dans le froid mancunien, et encore une fois une démonstration. Que dire? Parce que encore une fois, les mots, on utilise toujours les mêmes mots, mais
Ouais. On va y revenir dans quelques instants, Philippe, bouge pas. On appelle ça du. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait un teasing, Simone. C'est pas genre ouais, l'Inter et puis en tête du classement.
Alors parlons-en. Tu devais lancer la pub là. Tu m'as mis pression.
Quelques résultats de la 17e journée de Serie A. L'Udinese est donc allé s'imposer à Milan face à l'Inter 3-1. Victoire du Napoli à Toro. Enfin au Toro, à Torino.
À Torino.
3-1 également. Et Roma Cagliari, ça donnait 1-0 pour la Roma. Du coup, et bien en tête du classement, ça bouge, Simone. Puisque l'Inter n'est plus leader, c'est le Napoli qui passe devant avec 2 points d'avance. On a la Juve qui est 3e et la Roma qui revient à hauteur de la Juve.
Oui, et bah, on peut commencer par le match de ce soir de la Roma, parce que ça a été
1-0.
Un final de match totalement fou. La Roma avait déjà raté un penalty, n'arrivait pas à trouver la solution. C'est le but qui arrive à la 95e minute. Et après une longue discussion, après l'intervention du VAR, l'arbitre a finalement concédé le but.
C'est pas le département, c'est le vidéo-arbitrage.
C'est la vidéo-arbitrage, bien sûr. Du VAR, l'arbitre a finalement concédé le but, et je peux vous dire que les Stades Olimpico, après avoir tenu son souffle, a explosé 2 fois en 1 minute après le but et quand il a été validé. Et la Roma continue, même dans la douleur, à remonter au classement, et on commence à y croire, parce que cette équipe qui, on pensait, oui, pouvait être dans les top 3 début de saison, là, après cette très belle Ligue des Champions et la qualification à la première place, même en championnat, continue à enchaîner. Donc la Roma, belle surprise des championnats, qui peut profiter aussi de la, je parle pas des crises, mais du passage, du triste passage de l'Inter, qui n'arrive pas à gagner face à l'Udinese. Il perd son invincibilité. Ouais. Seul club italien qui était invaincu depuis le début de la saison en championnat. Et tout ça, c'est pour résumer en une chose.
L'Udinese qui joue le maintien, en gros, cette saison.
L'Udinese qui joue le maintien, qui, depuis qu'a changé entraîneur, il a fait 3 victoires sur 4 matchs.
Aujourd'hui, l'entraîneur, c'est Massimo Lodo, ancien latéral.
Ah, c'est lui, il est entraîneur.
Du Milan et champion du monde. Parfois, vous voyez, changer d'entraîneur, ça sert à quelque chose. L'Inter a joué cette semaine en Coupe, Coupe d'Italie, face à Pordenone, équipe des 3e division. Et même s'il n'y avait pas beaucoup de titulaires, mais ils sont rentrés en deuxième mi-temps, puis l'Inter est arrivé au 120, il est passé que au penalty. Ah, donc oui. 120 minutes jouées. Et là, on voit quand Spalletti dit qu'il n'a pour lutter pour les titres, il faut quelque chose en plus. L'Inter, sur la première fois qu'il joue un match très tendu, quand même très long, et surtout joue deux fois dans la semaine en coupe. Il y a eu des tours, des matchs dans la semaine, des championnats, mais là, c'est la première fois qu'il y avait un, dans les jambes quelque chose en plus que ses adversaires. Elle tombe. Et ça peut être important pour l'Inter de répartir, de comprendre. Mais ils sont très bien, ils savent très bien à Milan. L'Inter n'est pas bâti pour lutter pour le titre, il lutte pour la quatrième place. C'était normal qu'un jour ou l'autre allait perdre un match. Perdre après avoir fait un match nul face à la Juve à Turin, ça fait plus mal. Peut-être quelqu'un a commencé à, aussi à penser d'être une équipe qui pouvait viser plus haut. Et là, redescendre sur terre. Et redescendre sur terre aussi parce que devant passe Naples.
Naples qui a gagné 3-1 donc face au Toro, victoire à Turin d'ailleurs. C'est vraiment l'équipe aujourd'hui qui est au-dessus des autres ou pas, le Napoli?
Non, c'est pas au-dessus des autres. Dans les bonnes journées, c'est très difficile à jouer. C'est une équipe qui joue très très bien, mais elle a besoin d'être aussi forte psychologiquement. Face au Torino, elle marque tout de suite, donc c'est plus simple de contrôler le match. Elle venait d'une période, dans les 5 dernières matchs, elle avait marqué que 3 buts, donc c'était une période où elle n'arrivait pas vraiment à trouver la solution. Mais là, face au Torino, marque tout de suite. Il y a un but qui est plus important que les autres, c'est le troisième, de Marek Hamšík, qui arrive avec ça, 115 buts avec le maillot du Napoli. Il arrive à l'égalité avec Diego Armando Maradona, meilleur buteur dans l'histoire du club. Bien sûr, Hamšík, lui, elle est même première à dire pas des comparaisons avec Maradona, mais il rêve d'être les capitaines qui amènent un titre à Naples.
Ça va leur faire, ça leur fera du bien d'être éliminé de Ligue des Champions au final, parce que la Ligue Europa, on se doute qu'ils vont la balancer, et vu qu'il fait jamais tourner au final, ça évitera que les joueurs soient totalement rincés. Bah, il fait jamais tourner. Pourquoi il lui a acheté des joueurs magnifiques alors qu'il les fait, il met toujours les mêmes?
Ce que vient de dire Jonathan, est-ce qu'il balancerait la Ligue Europa ou pas, le Napoli?
C'est pas impossible, c'est pas impossible. C'est, ça reste un Coupe d'Europe, ça reste un Coupe d'Europe.
Il joue qui, Napoli?
Red Bull Leipzig.
Ils sont chiants.
C'est possible de perdre et sortir avec la tête haute en disant bah c'est Lipsia.
Est-ce qu'ils vont le prendre Berardi cet hiver? Ça parle.
C'est possible, mais ce soit le demande quand même 30 millions, donc c'est pas une négociation simple à faire. Naples a déjà pris un Anglaise, buteur du Chievo, donc Milik va récupérer jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que depuis la blessure de Insigne, depuis la blessure de Goulam, on avait vu Naples qui avait beaucoup de difficultés à marquer des buts. Ce soir, face au Torino, comme ils ont marqué tout de suite, après ils ont géré les matchs. Et les problèmes de Naples, parfois, c'est d'arriver à percer des défenses compliquées. S'ils sont dans un match compliqué, ils n'arrivent pas à trouver la solution.
C'est pas assez méchant, je trouve, devant.
Voilà.
Juste un mot quand même sur la Juve qui jouera demain face à Bologne. En cas de succès, la Juve passerait devant l'Inter aussi, c'est-à-dire que l'Inter glissera la troisième place.
Elle reviendra un point. La Roma a un match en retard, donc pourrait tomber quatrième. Et si la Lazio aussi un match en retard, donc
c'est une bonne chose.
Il y a vraiment cinq équipes
qui luttent. Ça va être la Juve championne encore cette année, mon gars.
Il y a cinq équipes qui luttent pour les titres. Pour l'instant, je pense qu'il y en aura que trois qui vont rester. Roma, Naples, Juve. Et à la fin de la saison, il sera Naples et Juve à lutter pour les titres.
Je ne crois pas l'Inter, c'est bon.
Je crois pas à l'Inter parce qu'il a pas une équipe à niveau de Naples, de la Juve et de la Roma. Déjà, la Roma, je la vois derrière Naples et Juve. Mais la Juve, bien sûr, si Naples n'est pas extraordinaire sur chaque match, et Naples a besoin d'être extraordinaire sur chaque match pour rêver de gagner le titre, la Juve, vraiment, est encore la plus forte.
Merci, Simone. Philippe, on se retourne vers toi. Alors on commence quand même par cette affiche, la démonstration de Man City face à Tottenham, victoire 4-1. Il y en a un sur lequel il faut que tu focalises, et tu l'as déjà fait d'ailleurs dans l'after, mais c'est Kevin De Bruyne. Quel match il a fait encore ce soir? Il y a pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live, mais ce joueur, il est magique. Hein.
Oui, il est magique, il a toutes les qualités. En plus de ça, il a une qualité qui, pour moi, le rend encore plus exceptionnel, c'est que c'est un joueur qui demeure avant tout collectif, un joueur qui pense avant tout à son équipe, un joueur qui est précieux défensivement, un joueur qui fait des efforts quand il faut en faire, mais surtout un joueur qui a une vision périphérique, un sens de l'espace, un sens du mouvement, qui sont tout simplement en dehors du commun. Je sais, moi j'en ai parlé à des amis belges qui le connaissent depuis son adolescence, même son enfance à Genk, et qui disaient que même quand il était très très jeune, il avait déjà ses qualités incroyables, où il voit ses passes qui pour toi sont des passes à l'aveugle. Et on en a encore vu aujourd'hui deux ou trois, mais où tu te dresses de ton siège. Il n'y a pas d'autre réaction possible, car comment a-t-il pu les voir? C'est des passes dignes d'un Platini, c'est des passes dignes d'un Dennis Bergkamp. Donc on parle de joueurs là qui sont au top du top du top de leur art. Et à côté de ça, il est également physiquement très costaud, il a une frappe absolument somptueuse du gauche comme du droit. Il est courageux, il s'est pris une semelle épouvantable de Dele Alli, un joueur qui connaît bien des problèmes en ce moment, hein, Nicolas.
Ouais.
Qui est l'ombre du joueur qui nous a tellement enthousiasmé l'année dernière.
Et qui avait marqué d'ailleurs face à City.
Oui, absolument, mais qu'on ne reconnaît absolument pas. Alors, je sais qu'il a marqué un doublé contre le Real Madrid, mais pour moi, c'était un match en faux semblant de la part de Dele Alli. Il n'avait pas été très bon. Il avait marqué des buts, mais il n'avait pas été bon. Ça arrive. Et il a un gros problème cette année. Et là, il met une semelle qui mérite un carton rouge de la même façon qu'il y a une agression de Harry Kane. Ça, c'est beaucoup plus rare, qui mérite un carton sur Raheem Sterling, qui mérite un carton rouge. Un match très brutal, hein, d'ailleurs, Nicolas. C'est une chose, moi, qui m'a frappé. C'est l'engagement physique des deux côtés. C'était à la fois un match artistique et en même temps un match à l'ancienne, à l'anglaise. C'était du très haut niveau, voilà. Et ils ont toujours des moments de faiblesse. C'est-à-dire que c'est pas une équipe parfaite, City. C'est peut-être pas la. En Angleterre, en ce moment, il y a ce débat. Est-ce que c'est la plus belle équipe qu'on ait jamais vue? Dans la plus grande équipe qu'on ait jamais vue en championnat d'Angleterre? Moi, je dis non. Ça, on pourra en parler au mois de mai. On verra. Mais est-ce que c'est le plus beau football qu'on ait vu en Angleterre? Il y a des moments, je me pose la même question, à savoir, c'est vrai que moi, ce football-là, j'ai rien vu, match après match, en plus, pas sur un match, sur quasiment depuis le début de la saison, je vois une équipe qui est au sommet de son art, une équipe qui a pourtant des blessés, une équipe où il y a des joueurs qui ne sont pas nécessairement au départ des joueurs, des superstars internationales, qui parlaient de Leroy Sané, de Raheem Sterling comme étant des superstars internationales au début de la saison. Pas grand monde. Gundogan qui fait un match formidable aujourd'hui, c'est un joueur qui était on se demandait mais qu'est-ce qui va lui arriver parce que.
Alors il a remplacé David Silva qui est quand même l'un des tauliers du milieu de terrain et qui n'était pas là pour raison personnelle et c'est lui qui marque le premier but en plus.
Oui, non, mais de toute façon, où que tu regardes, les joueurs Fabian Delph, c'était quoi? C'était un joueur qui venait d'Aston Villa, revenait de blessure. Tu peux continuer comme ça. Eliakim Mangala était censé être un ratage total. Et tu peux continuer comme ça. Donc c'est un phénomène collectif dû à un entraîneur et à un groupe technique, et puis dû également à des joueurs qui ont une personnalité, qui ont la personnalité qu'il faut pour l'entraîneur qu'il faut. Et le résultat, c'est un spectacle magnifique qui nous est proposé de semaine en semaine, où le résultat est à la hauteur de la manière et réciproquement.
Dis-moi, Philippe, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça soit à domicile ou à l'extérieur, on dirait qu'il y a un joueur de plus à Manchester City. On dirait qu'il joue à 12 à chaque fois.
Ben oui. Ça aide quand tu as. Ça aide quand tu as justement des joueurs comme Kevin De Bruyne qui font le travail de deux joueurs. Mm-hmm. Ça aide quand tu as des joueurs qui ont un tel sens du sacrifice. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux dire de tous quasiment. Tout le monde n'est pas au top. Hein. Kun Agüero, on l'a vu meilleur qu'il a été. Gabriel Jesus, je trouve qu'il marque un petit peu le pas en ce moment. Ouais. Yeah. Mais quand la machine se met en route, c'est tout simplement étonnant. Et y compris le gardien, Ederson, qui est un joueur de champ, hein, on est bien d'accord. C'est un excellent gardien, mais c'est aussi un super joueur de champ qui a une qualité de passe supérieure à beaucoup de défenseurs que je vois en première ligue.
Il a une grosse frappe de balle aussi, Ederson. Alors, juste un petit mot quand même, il nous reste deux minutes là, Philippe, sur les autres équipes, parce que c'est vrai que si City en claque 4 face à Tottenham, City joue très bien. Alors, Arsenal a gagné dans la douleur 1-0 face à Newcastle, bien que le but de Mesut Özil soit très beau. Chelsea gagne 1-0 également dans la douleur face à Sutton. On attend United qui joue demain à West Brom. Et c'est vrai que pour l'instant, les autres, les poursuivants qui sont déjà loin derrière, ils ont plus de mal hein, quand même. Hein.
Oui, ça a du mal et c'est normal. Je veux dire, de toute façon, tu as dû voir Jurgen Klopp a dit grosso modo que le titre, il fallait le titre était dans la poche pour Manchester City. Moi, quand j'ai parlé à Hugo Lloris après la rencontre, il a dit de toute façon pour nous le titre c'est évident, on peut dire adieu. Ce qu'on veut c'est une place dans le top 4. Mourinho a dit le titre, ce sera probablement pour Manchester City. Alors, même si Mourinho dit une chose pareille.
Enfin, il est revenu sur ses déclins. Hein. Il a dit non. Bien sûr que j'y crois, sinon je serais déjà parti en vacances au Brésil, quoi. Mais...
Ouais, enfin bon, bref, on se comprend. mais c'est vrai que derrière, bah, qu'est-ce que tu veux, tout simplement, même si tu es bon, tu peux pas. T'as des moments, t'as des trous d'air, toute équipe a des trous d'air, et par contre, Manchester City n'en a pas. Rappelons que le record, c'est ce record qui est en cours, c'est 16 victoires consécutives, 18 matchs joués, 17 victoires, un match nul contre Everton, la deuxième journée de la saison. Donc on parle de stats qu'on n'a pas connu en Angleterre depuis la création de la Ligue en 1888. Ça veut dire qu'il y a, il y a une telle... Je crois, je ne pense pas me tromper, qu'il y a en fait davantage de points entre Manchester City et Tottenham qu'il y a entre Tottenham et le premier relégable. Donc ça veut dire qu'ils sont dans une autre dimension. Par contre, derrière, ça va se bagarrer pour une place dans le top 4. Et puis des résultats assez surprenants aujourd'hui avec le réveil des équipes qu'on pensait condamnées à un moment. Et Crystal Palace, la victoire, il suffit que je chante les louanges de Claude Puel, je chante une affaire de toute façon.
Ça pose 3-0 à l'histoire.
Bah oui, 3-3, ils se prennent 3 buts contre Crystal Palace. Mais Crystal Palace, depuis que Roy Hodgson et le vieux dinosaure là dont tout le monde se moquait est arrivé à Palace, et ben ça se passe très bien. De la même façon que West Ham, ça se passe très bien avec avec David Moyes maintenant que l'équipe commence à lui ressembler et qu'ils ont été gagnés 3-0 à Stoke, ce qui devrait enfin nous valoir, parce que moi j'attends que ça avec une grande impatience, le départ de Mark Hughes, qui est quand même l'une des impostures absolues de cette première ligue. Et c'est pas d'hier que je vous le dis, hein, mais c'est...
Pourtant, c'est l'un des managers qui a le plus de matchs en PL, hein, dans l'histoire de la... C'est en activité.
Oui, absolument. Mais bon, il y a des moments où il y a des clubs où ça se passe mal, et puis il y a des moments où tu montres... je crois qu'il y a... C'est quelqu'un qui peut-être pourrait montrer un peu plus d'humilité de temps à autre, qui ne le fait pas. Et puis qui là s'est complètement fourvoyé et se fourvoie depuis plus d'un an et on est dans le domaine de l'euthanasie, hein, quasiment. Oula. Avec lui. Hein.
Bon bah écoute, nous aussi on va t'euthanasier, on va te souhaiter une bonne soirée.
Bah
écoute, tu balances, on défend quand même. Merci Philippe, à demain.
Ciao. Merci à vous.
Bonne soirée.
Salut,
Philippe.
Merci beaucoup. Bye.
Bon retour à toi.
Ciao
Philippe, merci. Et demain il y aura donc Manchester United qui sera à West Brom, il y aura un match entre Bournemouth et Liverpool, des matchs que vous pourrez suivre à partir de 15h sur SFR Sport bien sûr. Et puis à Lyon-Marseille aussi à partir de 20h RMC, bien entendu, demain soir, le Super Football Show. Merci Ali Benarbia. Merci Jonathan Macardé.
Merci Nicolas.
Grazie mille, Simon Lerro.
Merci Nicolas Villas.
Vous avez préparé cette émission
pour 6 mois.
Merci à vous, à demain. Bisous. Bonne soirée.
Merci Nicolas Villas.
RMC Live.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.